Enjeu de santé, le magazine prévention santé de SILAB.
En partenariat avec l'Agence régionale de la santé et la région Bretagne.
Enjeu de santé vous propose de questionner les liens entre nos pratiques alimentaires et la qualité de notre sommeil. Pas besoin forcément d'être un expert sur la question pour savoir que boire un café avant d'aller se coucher n'est pas la meilleure idée. Pourtant, les liens entre nutrition et sommeil sont un peu plus complexes que cela. En cause notamment, les mécanismes impliqués dans le surpoids. Nous vous proposons donc aujourd'hui d'analyser la particularité de ces mécanismes circulaires. Une alimentation mal équilibrée entraîne le plus souvent un sommeil de mauvaise qualité et à l'inverse, la mauvaise qualité de notre sommeil nous pousse à compenser par des pratiques alimentaires déséquilibrées. Pour en parler, nous avons rencontré un diététicien, une sophrologue, ainsi qu'une infirmière spécialisée sur la question du sommeil. Au cours de cette émission, nous essaierons aussi de nous questionner sur ceux d'entre vous qui auraient peut-être des horaires atypiques. En effet, les étudiants sont de plus en plus nombreux à travailler en horaires décalés ou bien parfois la nuit.
Je suis Ronan Garçon, je suis diététicien à la Polyclinique Saint-Laurent, à Rennes. Et donc j'interviens dans tous les services de la polyclinique.
On sait aujourd'hui que le quota de sommeil requis pour un adulte, il va se situer entre 6 et 8 heures de sommeil par nuit, hein, selon les personnes. Et un certain nombre d'études a montré qu'en dessous de 5 heures de sommeil par nuit, le risque d'obésité augmentait chez l'adulte. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ?
Donc c'est cette plus grande fréquence de l'obésité chez les personnes qui ont un manque de sommeil, s'explique notamment par des modifications de sécrétion de certaines hormones et qui peuvent avoir une incidence sur la régulation de l'appétit et du poids par la même occasion. Donc notamment, il y a deux hormones qui sont principalement en cause, notamment la leptine, qui inhibe l'appétit et augmente la dépense énergétique du corps. Et une autre hormone, la gréline, qui par contre, elle, qui est sécrétée par l'estomac, qui aurait tendance à stimuler l'appétit et qui stimule l'appétit. En manque de sommeil, la sécrétion de la première hormone, la leptine, est diminuée et la sécrétion de la gréline est augmentée. Donc du coup, on constate dans la journée une augmentation de l'apport calorique lié au grignotage, à des modifications des structures, de la répartition alimentaire sur la journée. Et des études montrent aussi des choix alimentaires différents, des aliments plus riches et plus caloriques sur la journée.
Alors, on parle de risque d'obésité, mais alors de quel ordre il est ce risque ? Est-ce qu'il est le même pour tout le monde ?
Forcément, le risque d'obésité n'est pas le même chez toutes les personnes de toute la population, notamment par rapport au rythme de travail, au rythme de vie, aux habitudes de vie. Il y a des populations, des professions notamment, qui sont plus sujets à risque. Les chauffeurs routiers, les commerciaux, les gens qui font les 2-8, les 3-8, qui ont des horaires décalés. Certaines populations avec des horaires de travail très importantes, notamment directeurs d'entreprise, des personnes qui ont des horaires vraiment importantes, qui n'ont pas forcément le temps d'avoir des repas structurés, qui ont tendance à être pris dans le rythme de la vie. Moi, je vois par exemple sur la clinique, quasiment un patient sur deux ne consomme pas de petit déjeuner. Certains patients ne vont pas non plus consommer un repas équilibré le midi, par faute de temps. Et donc du coup, c'est un retentissement sur le repas du soir. Ça va être des repas beaucoup plus copieux, c'est aussi beaucoup plus convivial. Souvent, les personnes ne prennent pas le temps le matin, ne prennent pas le temps le midi, ou n'ont pas forcément le temps. Et du coup, le soir, se retrouvent en famille et vont avoir des repas plus riches, plus conviviaux, vont passer plus de temps à table. Mais ce qui engendre une répartition au niveau des calories et au niveau des apports qui est complètement inversé par rapport à la logique et par rapport à l'organisme, ce qui peut entraîner une prise de poids, des syndromes métaboliques, apparition de problèmes cardiovasculaires, de diabète et notamment de troubles du sommeil aussi. Donc certaines études statistiques ont montré que 58% des patients obèses souffraient d'apnée du sommeil et que 50% des personnes qui avaient des apnées obstructives du sommeil étaient obèses.
J'aimerais qu'on rebondisse peut-être sur la question du diabète, puisqu'on dit que donc les perturbations du sommeil, le manque de sommeil entraînent des risques d'obésité, etc. Et donc le diabète n'est jamais très loin, donc le sommeil peut aussi avoir un impact sur le diabète.
Donc il y a cette prévalence-là par rapport aux troubles de l'alimentation qui entraînaient un surpoids, voire une obésité, et qui jouaient sur le trouble du sommeil. Mais en plus, il existe une diminution de la quantité d'insuline sécrétée, également une résistance à son action, à l'action de l'insuline, par des troubles de sommeil ou un manque de sommeil. Donc forcément, ça a une incidence sur le diabète ou sur un mauvais équilibre chez les patients qui sont diabétiques.
Alors, si le manque de sommeil va générer donc des risques d'obésité, on constate que ça va aussi dans l'autre sens, et donc que notre alimentation a un impact important sur notre sommeil. Est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler le rôle de notre alimentation sur le sommeil ?
Je peux tout d'abord vous parler de la caféine, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, nous, chez les patients. Et donc que la caféine stimule la production de certaines hormones du sommeil, et que jusqu'à 6 heures de l'ingestion de cette caféine, elle allonge le taux d'endormissement. Donc si on peut calculer un taux d'endormissement à 22 heures, donc il faudrait qu'on arrête de consommer des boissons riches en caféine après 17 heures. Donc comme le café, le thé ou certaines boissons énergisantes, bon, je n'ai pas donné de marque, mais type boisson riche en tyrosine et en caféine qu'on peut trouver dans le commerce et que les jeunes souvent consomment lors de soirées notamment. Donc on peut parler aussi de la consommation d'alcool qui consommée en excès, on a l'impression qu'on va trouver un sommeil rapide, mais c'est tout le contraire, ça entraîne ce qu'on appelle une insomnie à rebond, ce que les scientifiques appellent une insomnie à rebond, qui induit initialement un endormissement assez rapide, mais secondairement, ça provoque une sécrétion d'adrénaline et diminue la sécrétion de mélatonine, donc c'est relativement scientifique, et entraîne un sommeil de mauvaise qualité, avec des réveils réguliers pendant la nuit. Pour le soir, pour le repas du dîner, aussi à éviter des repas trop riches, trop copieux, trop riches en graisse, trop épicés, qui pourront provoquer des troubles digestifs, des troubles gastriques, qui ralentiront la digestion et qui peuvent retarder, qui vont perturber l'endormissement et la qualité du sommeil aussi. Aussi les repas trop légers, qui peuvent aussi retarder l'endormissement et provoquer des réveils précoces. Donc on parle de trop. Il faut éviter le trop riche ou le trop léger le soir. Et privilégier certains aliments, notamment toujours avoir un petit peu de glucides, mais de type ce qu'on appelle les féculents. Donc les produits céréaliers, les pommes de terre, les pâtes, le riz, le pain. Mais éviter les produits trop raffinés, qu'on a une assimilation beaucoup plus rapide. On se rapproche un peu de l'alimentation du diabétique, en fin de compte, avec une alimentation très équilibrée, un très bon petit déjeuner, un bon déjeuner où on va piocher dans tous les groupes alimentaires. Et un dîner relativement léger, mais on diminue la quantité de protéines qui peuvent avoir aussi un retentissement sur la qualité du sommeil. On diminue un peu les glucides, mais en prévisant les glucides qu'on appelle vulgairement des fois ce qu'on appelle les sucres lents, au détriment des sucres rapides, tous les glucides rapides qui sont là à diminuer fortement, qui peuvent agir sur la sécrétion d'insuline et avec des pics de glycémie et avoir des retentissements sur les troubles du sommeil.
Tout à l'heure, vous me répondiez à une question en disant qu'on n'était pas tous exposés de la même façon au risque d'obésité, puisque ça pouvait aussi dépendre du travail qu'on faisait, etc., du rythme de vie qu'on pouvait avoir. Chez les étudiants, on a remarqué au fil de certaines études qu'un certain nombre d'entre eux travaillaient la journée, mais aussi beaucoup la nuit, ou avec des horaires atypiques. Qu'est-ce que vous conseilleriez à ces étudiants-là qui ont eu peut-être un peu de mal à régler l'horloge alimentaire ?
Peut-être pas de consulter, mais l'idéal, ce serait d'adapter leur repas par rapport à leur rythme de travail. Mais c'est vrai que c'est compliqué, surtout le travail de nuit. Bon, là, c'est vraiment quelque chose de très spécifique, le travail de nuit, avec des horaires complètement décalés. Moi, je le vois dans ma population, dans ma patientèle, notamment en cardiologie, ça entraîne vraiment des troubles importants et des troubles métaboliques importants d'avoir des... Sans parler des troubles du sommeil, mais forcément, ça a un retentissement sur les troubles du sommeil. Maintenant, de travailler, moi, je le vois chez les patients qui sont jeunes, comme je vous disais tout à l'heure, dans ma patientèle, quasiment un patient sur deux ne mange pas le matin. Dans la population jeune, les pourcentages sont encore plus importants. Donc s'alimentent peu le matin, ont une consommation de produits énergétiques, sucrés, des barres céréales, des barres chocolatées qui apportent beaucoup de sucre, beaucoup d'énergie disponible tout de suite. Manque de légumes, manque de crudités. Par contre, il y a un équilibre alimentaire qui est pas satisfaisant. Souvent le midi c'est bâclé, des repas beaucoup trop rapides, donc ça joue énormément aussi sur les métabolismes, sur l'absorption des aliments. Et le soir, souvent on se rattrape le soir avec des aliments relativement riches, type pizza, type restauration rapide, des McDo, pas citer de marque, des alimentations, beaucoup de pâtes, mais avec des cuissons relativement longues, donc ça dénature les produits, des alimentations relativement riches en graisse, riches en sucre rapide, qui ne facilitent pas le sommeil et qui peuvent dérégler. Donc, pour ces jeunes-là, je leur dirais déjà, même s'ils ne travaillent pas de nuit, c'est déjà très bien manger le matin, de bien manger le midi, prendre du temps pour ces repas, et le soir, de manger relativement léger et en prenant son temps, prendre du temps au repas. Et faire des collations s'il y a besoin. Si les laps de temps entre les différents repas sont importants pendant la journée, de ne pas bâcler, de bien y penser, de ne pas se dire « on récupérera ça le soir ». On ne récupère pas sur la journée les apports qu'on a perdus en mangeant plus le soir. Naturellement, l'organisme le fera, mais c'est une chose qui est délétère vis-à-vis des troubles du sommeil, mais la prévalence de la prise de poids, la patient diabète, des performances, performances physiques, mais performances intellectuelles dans le cadre dans leur étude. Moi, je parle souvent de balance énergique. Il y a des dépenses d'un côté, il y a des apports de l'autre. Donc, que ce soit des dépenses musculaires pour un sportif, mais des dépenses intellectuelles aussi, et que le cerveau a besoin de nutriments, a besoin d'énergie pour bien fonctionner, et que on nourrit son cerveau aussi, et que c'est très important d'avoir des repas très structurés. C'est l'équilibre alimentaire. Hein. Très bon petit-déjeuner, un bon déjeuner, un dîner relativement léger en apportant ce qu'il faut quand même. Et donc, pour le travail de nuit, c'est un décalage en fin de compte. Si on travaille de nuit, c'est de prévoir des collations de certains types aussi, et pas des collations avec des produits trop sucrés, trop gras, mais de s'alimenter et de penser à s'alimenter même pendant ces moments-là. Surtout pas de régime, même s'il y a des jeunes qui auraient besoin de perdre du poids, surtout pas mettre en place des régimes type régime hyperprotéiné, hypocalorique, qui entraînent généralement des carences importantes et qui peuvent jouer aussi sur des prévalences après de prise de poids, des pertes de poids, mais des reprises de poids importantes, et notamment des troubles du sommeil aussi. Hein. En priorité, quand on se lève le matin, c'est de manger. C'est de manger, s'obliger à se manger, se rééduquer. En fin de compte, c'est vraiment une rééducation alimentaire, de prendre le temps le week-end, pendant les vacances, d'essayer de rééduquer son organisme à bien s'alimenter le matin, prendre des très bons petits déjeuners le matin, quitte à se réveiller 10 minutes, un quart d'heure avant, de le préparer la veille. Mais tout va être déclencheur. Le petit déjeuner est déclencheur de beaucoup de choses. On voit chez nos patients diabétiques, ils ont des traitements, mais s'ils ne mangent pas suffisamment le matin ou mal équilibrés, forcément c'est un retentissement sur toute la journée, pas que sur toute la matinée. Eux le ressentent sur la matinée par rapport à leurs hypoglycémies ou par rapport à des jeunes avec des baisses de performance physique ou intellectuelle, mais il y a un retentissement sur toute la journée. Donc c'est déjà le petit déjeuner, le matin, on se réveille, on doit être à jeun. Il faut manger le matin, un très bon petit déjeuner, bien équilibré, en piochant à peu près dans tous les groupes alimentaires. Le midi, prendre ce temps-là, même si c'est peu de temps, d'essayer de piocher dans tous les groupes et de s'alimenter le midi. Et le soir, par rapport au repas qu'on a eu dans la journée, d'essayer de rééquilibrer. Si on n'a pas consommé suffisamment de féculents, suffisamment de légumes verts, suffisamment de protéines, de rééquilibrer par rapport au soir. Après, par rapport aux troubles du sommeil, oui, il y a des aliments qu'il ne faut pas surévaluer et surconsommer le soir. Le soir, avant de se coucher, comme on disait, hein, trop de produits sucrés, trop de protéines. Mais l'important, c'est déjà d'avoir un bon équilibre alimentaire, sans pour autant d'avoir d'énormes connaissances. Et je pense que les gens ont les connaissances, moi je le remarque dans mon travail de tous les jours, ont les connaissances, mais des fois, faut l'entendre dire, faut que ça soit expliqué, réexpliqué, et que ça marque les gens avec des choses très très pratiques. Déjà, faut surtout pas bâcler le petit déjeuner, c'est vraiment une base. C'est prendre un bon petit déjeuner, ça régule beaucoup de choses sur la journée après.
Nathalie, infirmière dans le service du sommeil, de l'hospitalisation, tout ce qui est enregistrement du sommeil, polygraphie, polysomnographie, surtout dans le dépistage de l'apnée du sommeil, et aussi dans la narcolepsie, par rapport à des tests de maintien d'éveil et des tests itératifs de latence d'endormissement où on demande aux patients de faire des siestes pour voir au bout de combien de temps ils vont s'endormir.
Alors je soulignais tout à l'heure avec votre collègue diététicien l'idée que troubles du sommeil pouvaient engranger des risques d'obésité plus importants, mais qu'à l'inverse, l'obésité a aussi des effets sur le sommeil. Est-ce que vous pourriez peut-être nous éclairer un peu là-dessus ? On entend souvent parler dans les médias du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu là-dessus ?
Alors, par rapport au syndrome d'apnée du sommeil, c'est vrai que le patient qu'on a en enregistrement, trois quarts du temps sont quand même en surpoids. Donc c'est vrai que c'est un syndrome qui apparaît chez les gens donc qui sont en surpoids. Quand on dort, c'est vrai qu'on donc quand on est allongé sur le dos, on va avoir la langue qui peut chuter un petit peu, les muscles vont s'affaisser un petit peu, il peut y avoir du tissu adipeux au niveau du cou, et c'est vrai que du coup ça va obstruer le passage de l'air. Donc c'est vrai que ces gens-là sont plus à risque que des gens qui n'ont pas de surpoids. Alors, les patients sont fatigués puisque du coup ils arrêtent une apnée, en fin de compte c'est qu'ils arrêtent de respirer au moins entre 9 et 10 secondes, donc ça peut être beaucoup plus. Donc c'est vrai qu'à la fin de la nuit c'est des gens qui sont fatigués, donc qui sont beaucoup moins vigilants, qui peuvent être irritables, peuvent avoir des troubles de l'humeur. Au niveau de la conduite automobile c'est pareil aussi, il y a plus de risques d'accident, on dit généralement que c'est multiplié par 7, de risques aussi d'accident du travail, ça peut être multiplié par 3. Ça peut entraîner mais aussi des problèmes d'hypertension, puisque du coup, quand on reprend sa respiration, c'est vrai que le cœur, du coup, a beaucoup plus de travail. Donc, problème aussi d'AVC, d'infarctus du myocarde. C'est vrai que c'est beaucoup au niveau AVC. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent souvent, qui ont eu un AVC, qui sont un peu en surpoids, qui viennent faire un dépistage des fois aussi après pour voir justement s'il n'y avait pas un syndrome d'apnée du sommeil qui a favorisé cet AVC.
Qu'est-ce que vous constatez pour les populations un petit peu les plus jeunes, on va dire, finalement les créneau 15-25 ans par exemple ?
Alors 15-25 ans, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent faire des enregistrements à la clinique avec le psychiatre ou avec la neurologue qui se plaignent justement de somnolence, de s'endormir en cours. Alors souvent ça peut être des problèmes de narcolepsie, hein, des gens qui dorment énormément, des gros problèmes de somnolence, mais c'est surtout aussi les nouveaux appareils à la mode, je dirais le portable, l'ordinateur. C'est vrai qu'on a, les gens que nous avons en enregistrement sont filmés la nuit, et les jeunes, quand ils se réveillent vers 1h du matin, ils prennent le portable, quoi. Donc c'est vrai qu'on essaye là justement aujourd'hui de dire aux gens, on a le petit jeu des 7 erreurs, et de leur dire, ben, le portable, même les gens un peu plus anciens ne se rendent pas compte que le portable justement peut aussi diminuer leur temps de sommeil, quoi. Donc tout ce qui est source lumineuse et le portable. C'est vrai que les jeunes sont quand même très accros au portable.
Alors ça c'est une des 7 erreurs, quelles sont les 6 autres ?
Le portable, donc, du coup, parce qu'on peut être réveillé, les ondes. Source lumineuse, donc ça peut être le radio-réveil. La télé, c'est vrai qu'aussi, les médecins ont tendance à dire que la chambre doit rester une chambre, quoi. C'est pas un salon, c'est pas une cuisine, quoi. Donc on fait pas n'importe quoi, si je puis dire. Hein? Donc c'est vrai que si on regarde la télé dans le lit, c'est vrai que du coup, ça va engendrer la chaleur de la pièce va augmenter. Donc du coup, on va avoir plus de mal à dormir, hein? Puisque quand on s'endort, notre température corporelle va baisser. Donc il faut déjà être dans un environnement propice. Donc on conseille une chambre à 18-19 degrés. Voilà. Il y avait aussi dans le jeu des 7 erreurs les animaux. Hein, chacun à sa place. Une bonne literie. Hein, une bonne literie, un matelas adapté.
Allez, deux ou trois petits conseils pour mieux gérer la qualité de son sommeil tout au long de la journée grâce au regard d'une sophrologue.
Bonjour, donc je m'appelle Christelle Nemager, je suis sophrologue et j'interviens donc pour le sommeil à la clinique Saint-Laurent, le mercredi après-midi et sinon à mon cabinet à Champy le reste du temps.
Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer en quoi consistent les séances de sophrologie que vous pratiquez ici à la clinique Saint-Laurent ?
Alors déjà peut-être en deux mots ce qu'est la sophrologie. Donc la sophrologie c'est à la croisée entre l'hypnose et le yoga. Et il y a donc des techniques qui vont être un petit peu plus dans le mental, d'autres qui vont être plus à dimension corporelle. Et par rapport en fait aux séances que je propose pour le sommeil, c'est un protocole en fait de 5 séances où on va travailler d'abord sur comment récupérer, hein, donc par des siestes flash, et puis aussi comment apprendre à se relâcher sur le plan corporel. à bien respirer, parce que une respiration apprendre à respirer de façon abdominale, parce qu'une meilleure respiration va permettre à la fois une meilleure oxygénation et un meilleur relâchement en fait du corps. Et après, à partir de la troisième séance, on va vraiment travailler sur le sommeil à proprement parler. Et là, ça va être aider les gens justement à reprendre confiance dans leur sommeil, à se réapproprier leur sommeil. Donc sur cinq séances à peu près.
Qu'est-ce que c'est une sieste flash ?
Alors une sieste flash, c'est une technique de récupération, qui va être assez rapide. C'est pas une vraie sieste, c'est-à-dire que au moment où on est prêt à basculer dans le sommeil, c'est là où il faut se réveiller. Mais c'est une technique qui dure à peu près 5 minutes, 10 minutes grand maximum, hein, mais pas au-delà. Et on peut la pratiquer en fait sur une chaise, donc ça peut être approprié aussi dans sa voiture, sur son lieu de travail, si on peut s'isoler un petit peu, pour récupérer et pour ensuite se redynamiser pour finir sa journée de travail.
Vous êtes habitué à faire des liens comme ça avec la question de la nutrition en tant que sophrologue? On imagine que vous, votre domaine, c'est plus le sommeil.
En fait, l'articulation, moi, par rapport à la nutrition, je ne voyais pas trop ce que je pouvais amener. Néanmoins, si vous voulez, en sophrologie, comme on apprend à être vigilant à son corps, plus on va faire de la sophrologie, plus on va être vigilant à toutes ces sensations corporelles. Et on peut être aussi vigilant aux sensations de la faim ou de la satiété. Donc c'est aussi à force permettre justement de ressentir en fait ces sensations-là.
Qu'est-ce que la sophrologue peut proposer d'autre éventuellement comme technique que la sieste flash ?
Alors il y a plein de techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sophrologie, ça se pratique debout ou assis. Contrairement peut-être à certaines idées reçues, c'est aussi apprendre à se relâcher dans la journée en posture tonique. Donc dans les postures dans lesquelles on est le plus souvent. Et donc en fait, il va y avoir des techniques debout, où par exemple on va faire des mouvements avec le corps. Voilà, on fait un mouvement et on voit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, comment mon corps soit étendu, soit est relâché. Et en sophrologie, on est dans ce qu'on appelle un état de conscience modifié, c'est-à-dire qu'on est vraiment au bord du sommeil en fait, hein, entre veille et sommeil. Donc on est dans un état où à la fois on va être relâché, mais en même temps très vigilant à tout ce qui se passe dans son corps. Voilà. Et donc, on va faire ces exercices-là. Alors après, ça peut être, par exemple, des exercices avec la tête pour travailler un petit peu sur les cervicales. Ça peut être des exercices avec le visage, la mâchoire, pour relâcher sa mâchoire. Des exercices avec les épaules, pour relâcher les épaules. Et petit à petit, on va descendre un petit peu. Enfin, on va partir de la tête et puis on va descendre petit à petit pour relâcher le corps. Et à chaque fois, après chaque mouvement, on se recentre. Voilà, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Quelles sont mes sensations? Et voilà. Et puis après, il y a des techniques assises. Où là on va travailler, alors il peut y avoir aussi des techniques pour relâcher le corps, mais ça va être aussi plus de techniques là de visualisation positive. Donc ça peut être des techniques où là on laisse la personne visualiser des choses agréables mais qui lui sont propres, hein. Et puis à un moment donné on va plus l'amener vers une visualisation d'un sommeil récupérateur où elle passe une bonne nuit de sommeil et où voilà, elle y prend plaisir. Donc voilà les différentes techniques que je propose.
En dehors de la sieste flash, est-ce qu'il est recommandé aujourd'hui pour les gens, hein, dans la vie de tous les jours, de procéder à une petite sieste de 3/4 d'heure, 1 heure? Est-ce que ça peut faire du bien ou est-ce que c'est beaucoup trop?
Non, c'est beaucoup trop. Il faut pas dépasser si on fait une vraie sieste, il faut pas dépasser les 20 minutes de sieste dans la journée, parce que après on empiète sur la nuit à venir. Donc voilà, donc si on fait une vraie sieste, c'est maximum 20 minutes dans la journée.
Enjeu de santé, c'est déjà fini pour cette semaine. Je vous propose de se quitter en musique avec Nine Lazy Nine et son titre Tech Nine. 7 minutes de down tempo pour les fondus de la sieste.
Sweet you.